J'aimerais ce matin ouvrir la Bible, puis on va continuer notre parcours sur l'épître de Paul aux Colossiens. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12. Voilà, on avait fini le verset 11 la dernière fois, donc on va reprendre au verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Amen. Alléluia. Nous sommes ici dans un passage extraordinaire de la parole de Dieu. Probablement un des passages les plus beau, qui élève, qui glorifie notre Seigneur. Un passage extraordinaire, et l'apôtre Paul va mettre en avant dans ce passage la grandeur de notre Seigneur. Il va mettre en avant sa prééminence, sa primauté, que celui qui est en tout le premier, qu'il est au-dessus de tout, que toute chose existe en lui, par lui et pour lui. Au chapitre 2 des Colossiens que nous verrons, eh bien, il va mettre en garde ses lecteurs, les Colossiens, et ça nous est parvenu jusqu'à nous maintenant, bien sûr, contre les hérésies qui existaient à ce moment-là. Ces hérésies qui amoindrissaient la personne de Jésus et qui prenez une sagesse sans Jésus, une piété sans Jésus. Aussi, l'apôtre Paul, avant d'aborder ces hérésies, va rappeler qu'il est au-dessus de tout, que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Il va élever notre Seigneur. Nous allons vraiment nous focaliser ce matin sur ce verset 16 que je vais relire. Car en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Verset extraordinaire. Il y a là trois expressions sur lesquelles on va s'arrêter ce matin. En lui, par lui, pour lui. En lui, par lui et pour lui, tout a été créé. En lui, par lui et pour lui. D'autres expressions se retrouvent aussi dans ce passage que nous avons lu jusqu'au verset 23. Il y a l'expression « avec lui » et l'expression aussi « devant lui ». Tout cela est fort intéressant et édifiant pour notre foi. Tout a été créé en lui, en lui. Et cette expression « en lui » revient souvent dans les écrits de Paul, surtout dans l'épître aux Éphésiens. Cette expression est partout dans cette épître ainsi que dans celle-ci. Mais aussi on retrouve cette expression dans les écrits de l'apôtre Jean, que ce soit dans son évangile, ainsi que dans sa première épître. Et tout a été créé en lui. Ça rejoint ce que dit l'apôtre Jean dans son verset au chapitre Jean, excusez-moi, au chapitre 1er de l'évangile selon Jean. On va lire les quatre premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, donc on retrouve l'expression par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, donc on retrouve encore cette expression, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. En elle était la vie. Alléluia. Donc, tout a été créé en lui. Il est l'origine de la création, de tout ce qui peut exister dans les cieux et sur la terre, de tout ce qui peut exister et que nous ne voyons même pas, dont nous n'avons même pas connaissance. On n'a même pas connaissance de tout ce qui existe sur cette terre. On n'a pas encore sondé les profondeurs, j'allais dire, des abysses, de la profondeur de la mer. On ne sait pas tout ce qui existe sur Terre. Alors, jusqu'aux confins de l'univers, imaginez-vous. Hein, tout ce qui existe, tout ce qu'on ne voit pas, et non seulement, j'allais dire, dans la création matérielle, mais aussi dans la création immatérielle, ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'il y a dans les lieux célestes. Les anges, ils parlent des dominations, il parle des autorités, il parle de ses dignités, de tous ses trônes, que nous ne voyons pas, mais que Dieu a créé. Et tout cela a été fait en lui, car toutes ces choses ont été créées en lui. Il y a un quart qui est là, au verset 16, qui introduit ce verset 16, qui nous ramène à ce qui est écrit au verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Le premier-né de toute la création. Jésus est en dehors de la création dans le sens qu'il n'a pas été créé, il a été engendré, et comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, il a été engendré aujourd'hui. Il existe depuis toute éternité. Et c'est en lui que tout a été créé. Alléluia. Il est la source de la création. Il est la source de la création, et je dirais aussi, la source de la recréation. Puisqu'il est dit, et nous l'avons lu ensemble tout à l'heure, qu'il est le premier-né d'entre les morts, au verset 18. Bien sûr, cela nous parle de sa résurrection. Il est le premier-né d'entre les morts. Et à partir de cela, une nouvelle création a commencé en Christ. Ce que le péché a détruit, Jésus, eh bien, le recrée. Et rappelons-nous ce que l'apôtre Paul écrit encore ailleurs, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est ? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a une condition, si quelqu'un est en Christ. C'est important d'être en Christ. On peut changer, on peut avoir nos pensées qui se modifient, tout le monde change. Mais pour devenir une nouvelle création, il nous faut être en Christ. C'est lui qui nous transforme au plus profond de nous-mêmes, c'est lui qui change notre mentalité, notre comportement, nos pensées, afin que cela soit en adéquation avec sa parole, avec sa volonté, avec son Esprit Saint. Il est celui qui agit au plus profond de nous-mêmes. Il en est l'origine. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Il est la source, il est l'origine de tout ce qui a été créé et de tout ce qu'il recrée, de tout ce qu'il a fait en nous. C'est lui qui en est l'origine. Alléluia. Dans le psaume 87, verset 7. Psaume 87, verset 7. La fin du verset du psaume 87 est extraordinaire. Verset 7. « Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. » Alléluia. « Toutes mes sources sont en toi. » Tout ce que nous sommes est en lui. Alléluia. Tout ce que le Seigneur fait dans notre vie est en lui. Toutes mes sources sont en toi. Comprenons bien, frères et sœurs, que nous ne pouvons rien sans Jésus. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et rien de ce qui a été fait dans nos vies n'a été fait sans lui. Toutes mes sources sont en toi. Aussi, si nous avons besoin de forces nouvelles, si nous avons besoin d'être ressourcés, n'oublions pas que nos sources sont en lui. C'est en lui qu'il nous faut venir puiser. Et Jésus va le dire à cette femme samaritaine qui était insatisfaite, qui avait vécu plusieurs échecs dans sa vie de couple, des échecs sentimentaux à répétition, une frustration qui est là, une insatisfaction qui est là. Mais Jésus va l'inviter à puiser une autre eau. Une eau vive, une eau qui désaltère, une eau qui est lui-même la source de la vie. Toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Ne n'oublions pas, le Seigneur est celui qui fait des choses extraordinaires et nous ne pouvons pas vivre sans lui. Notre vie n'a de sens qu'en lui. Christ est ma vie, disait l'apôtre Paul, et la mort m'est un gain. Tout ce que nous pouvons faire, toutes nos pensées, n'ont de sens que si elles sont en Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Cette expression, nous la retrouvons encore dans ce même passage. Il le dira par exemple au verset 16 que nous avons lu, bien sûr. Au verset 14, il dit « En qui, en Jésus, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ?» Et puis au verset 19, il dira « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Alors l'apôtre Paul ici, j'allais dire, il frappe fort, dès le départ. Avant de parler des hérésies, n'oublions pas que ces Colossiens amoindrissaient la personne de Jésus et quand ils parlaient de plénitude, cette hérésie invoquait toutes sortes d'êtres dans les cieux et qui composait cette plénitude. Mais ici, l'apôtre Paul va rappeler, c'est plus qu'un rappel, c'est une déclaration, c'est une affirmation. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. On ne peut trouver nulle part autre. Tout, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il va le rappeler encore au chapitre 2, on le verra une prochaine fois. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Alléluia. Nous avons tout en lui. Il est celui qui est l'origine de toutes choses. En lui, mais aussi par lui. Tout a été créé en lui, mais aussi par lui. Il est celui qui agit. Il est celui qui fait les choses, qui crée les choses. Ce n'est pas un autre. Et encore là, ces enseignements qui influençaient, ces faux enseignements qui influençaient les Colossiens, attribuaient à certains anges la création. La création. Mais là, l'apôtre Paul rappelle que c'est lui qui l'a faite. Que tout a été créé par lui. Et Jean, nous l'avons lu tout à l'heure, dans ses quatre premiers versets, il dit « Tout a été fait par elle, par la parole ». Et nous savons que Jésus est cette parole de Dieu. Il est cette parole qui a été faite chair. Tout a été créé par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Encore aujourd'hui, nous avons besoin de réaffirmer et de redéclarer ces choses-là. Tout a été créé par lui. Ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. Presque, on divinise le hasard, hein, presque. Hein. Mais tout a été créé par notre Seigneur Jésus. Dans le psaume 139, versets 13 et 14, il est écrit ceci, je cite, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Alléluia. C'est le Seigneur qui nous a créés, même nous. Peut-être qu'on ne se plaît pas comme on est, on aurait aimé à notre corps être fait différemment, je ne sais pas. Mais c'est le Seigneur qui nous a créés ainsi. Comprenons bien les choses. Nous ne sommes pas non plus, nous, le fruit du hasard. Avant même que nos parents aient désiré avoir des enfants, Dieu nous a désirés avant. Amen. Et nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas le fruit d'un accident, quand bien même nos parents nous auraient eu par accident, mais pour Dieu, ce n'est pas un accident. Il nous a désirés. Non seulement il nous a désirés, mais c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait en nous, pour tout ce qu'il a créé. Merci Seigneur aussi pour nos limites qui sont les nôtres, qui nous rappellent aussi nos limites, que nous avons besoin de toi chaque jour qui passe. Alléluia. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Sans occulter rien de... Il y a des choses qui peut-être nous paraissent... hideuse, moche, mais tout ce que Dieu fait est extraordinaire. Et nous savons que le Seigneur est celui qui tient toutes choses. Alléluia. Donc, tout a été créé par lui. La réconciliation aussi, c'est par lui. Il est parlé de la réconciliation. Et c'est par le sang de sa croix, alléluia, qu'il a établi la paix et la réconciliation. Mais il y a un troisième point sur lequel on va s'arrêter, qui est très important. Tout a été créé en lui, par lui, et qu'est-ce que rajoute l'apôtre Paul ? Pour lui. Amen. Pour lui. Jésus est le but suprême de la création. Il est le but suprême. Tout est pour lui. Alléluia. Et entièrement pour sa gloire. Et non pas pour la nôtre. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom seul donne la gloire. Lisons ensemble dans Romains chapitre 11, verset 36. Romains 11, verset 36. On retrouve cette même pensée ici. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors il y a une autre expression sur laquelle on pourrait s'arrêter, c'est de lui. C'est de lui, il est l'auteur. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Comprenons bien que notre vie n'a de sens que quand elle est pour lui et non pas pour nous. On peut faire les choses pour nous, mais en fin de compte, n'oublions pas que c'est pour lui, pour que lui soit glorifié. Lisons encore dans Romains chapitre 14. Romains 14. Verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes au Seigneur, quoi qu'il arrive. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons faire, c'est pour lui. Et nous voulons vivre dans cet état d'esprit-là, que tout est pour lui. Même notre mort, elle est pour lui. Alors c'est un précieux réconfort, dites-moi. C'est un précieux réconfort. Et nous n'avons plus de raison de craindre la mort, parce que nous savons que même la mort a du prix, la mort de ses enfants, elle a du prix aux yeux de Dieu, et c'est pour lui que nous mourons. C'est pour lui que nous mourons. Quoi que nous fassions, tout est pour sa gloire. Et quoi que je fasse sur cette terre, je veux le faire pour que le Seigneur en soit glorifié. Non pas pour une vaine gloire, non pas pour que j'en sois félicité ou quoi que ce soit, non pas pour un gain sordide. Non pas pour un gain sordide. On ne fait pas les choses par amour pour l'argent, mais pour la gloire du Seigneur. Et quand on tombe dans ce piège de faire les choses par intérêt, pour soi, pour un gain sordide, c'est sûr que là, on va tomber dans toutes sortes de pièges et se trouver entravé par des choses dans lesquelles nous ne pourrons plus nous défaire sans l'intervention du Seigneur, sans crier à lui et lui demander pardon. Tout est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Puissions-nous comprendre cela, puissions-nous croire cela et puissions-nous vivre dans cette pensée-là, dans cette conviction-là. Quoi que nous fassions, qu'on balaye ou qu'on soit sur un poste peut-être humainement élevé, nous voulons dire « Seigneur, c'est pour ta gloire. » Alléluia. Là où nous sommes, c'est pour le Seigneur que nous y sommes. Tout est pour lui. Alléluia. Lorsque le Seigneur va adresser la parole à Jérémie alors qu'il est encore très jeune et qu'il va lui révéler qu'il a fait de lui le prophète des nations, et il va lui rappeler ce que je disais tout à l'heure, qu'avant même que ses parents, avant même que le monde soit fait, il l'avait déjà établi prophète des nations. Donc le Seigneur veut que Jérémie comprenne que s'il est sur cette terre, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Et de la même manière, si nous sommes sur cette terre, là où nous sommes, dans la condition où nous sommes, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Et notre vie n'a de sens qu'en lui, que le Seigneur soit glorifié. Béni soit le nom du Seigneur. On pourrait encore lire dans un autre verset qui rejoint encore cela, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, même le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. N'oublions pas que ce que le Seigneur a fait pour nous, et nous sommes morts au péché en Christ pour vivre avec lui et pour lui. Nous nous regardons donc comme morts au péché, mais vivants pour Dieu. L'apôtre Paul le dira encore dans Romains chapitre 6. Nous ne vivons plus pour le péché, nous ne vivons plus pour la gloire humaine, mais nous vivons pour le Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles en nous. Alléluia. Et l'apôtre Paul va rajouter qu'il est avant toutes choses. Dans Colossiens, on l'a lu tout à l'heure. Il est avant toutes choses, avant même que nous ne sommes pas à l'initiative des choses. Le Seigneur est avant toute chose Et il écrit encore que toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. On peut relire ce passage dans Colossiens. On peut lire au verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Alors ça, c'est important parce que dans certains courants d'idéologie, de pensée, d'enseignement religieux, certains croient en l'existence de Dieu, ils admettent que Dieu a créé le monde, l'univers, mais ils disent et ils enseignent que depuis la création, Dieu ne se soucie plus de sa création, il a pris ses distances, et qu'il laisse le monde évoluer comme ça. Mais ici, au verset 17, l'apôtre Paul nous rappelle que toute chose subsiste en lui. Si le monde existe encore aujourd'hui, si le monde subsiste encore aujourd'hui, c'est parce qu'il le tient. Et parce que toute chose subsiste en lui. Il suffirait, de la même manière qu'il a suffi à Dieu de dire un mot et les choses existent, il suffirait que Dieu dise un mot et tout disparaît. Ce qui va un jour se passer. Je le dis, hein. C'est quand on lit certains textes, un jour, les cieux et la terre passeront. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia, hein. Si ça va se terminer, là où nous sommes, nous savons que c'est pour une nouvelle création que Dieu a préparée. Mais entre-temps, c'est vrai que toute chose subsiste en lui. Amen. Il soutient toute chose par sa parole puissante, est-il écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Il tient le monde entier dans ses mains et il soutient toute chose. Et cela est pour nous un puissant encouragement. Rien n'arrive sans que Dieu l'ait voulu ou sans que Dieu, à la rigueur, l'ait permis. Rien n'arrive. Il soutient toute chose entre ses mains et rien n'arrive dans nos vies sans que Dieu l'ait permis ou voulu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'oublions pas que si toute chose dans les cieux et sur la terre subsiste en lui, à bien plus forte raison a-t-il le pouvoir de nous garder jusqu'à son retour, n'est-ce pas? Si nous subsistons aujourd'hui, si nous sommes soutenus aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur en a le pouvoir. Il soutient toute chose par sa parole. Même notre mort, comme je le disais tout à l'heure, elle est au contrôle de notre Seigneur Jésus. Et notre mort, en fin de compte, ne signe pas notre fin. Elle ne signe pas notre fin. Toute chose subsiste en lui. Ça nous parle aussi de quelque chose qui dure dans le temps. Jésus n'a-t-il pas dit, lors de la résurrection de Lazare, il l'a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Pourtant ça. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous subsistons en lui. Alléluia. Quand même nous serons morts. Nous subsistons en lui. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Lazare est mort. Le Seigneur va le ressusciter. Il est évident que sur cette terre, Lazare n'a pas été immortel. Il est mort définitivement. Mais il fait partie de ceux qui ont cru en Jésus. Alléluia. Et il vit pour l'éternité. De la même manière qu'un jour, il nous faudra passer par le cimetière, à moins que Jésus revienne avant. Mais nous ne mourrons jamais. Toute chose subsiste en lui. Il est la vie. Alléluia. Il est la vie. Et nous pensons parfois que certaines situations dans notre vie sont mortes. Nous pensons que dans telle situation, il n'y a plus d'espoir. Mais c'est sans compter sur le Seigneur. Alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et toutes choses subsistent en lui. Et nous voulons le glorifier, notre Seigneur. Alléluia. Ce texte des Colossiens est tout à fait extraordinaire. Il nourrit notre foi. Il nous encourage. Il nous affermit. Il nous aide à aller de l'avant. On comprend pourquoi l'apôtre Paul commence ce passage au verset 12 en disant « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » C'est lui qui nous en a rendu capable. Alléluia. Et puis il rajoute « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Et non seulement il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, mais il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, que son nom soit béni. Et c'est lui qui nous a réconciliés. Au verset 20 et 21, nous avons lu que la réconciliation allait par lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair. » Donc la réconciliation, c'est par lui. Et nous rendons grâce au Père pour cela. L'apôtre Paul dira que nous étions étrangers et ennemis. On n'était pas simplement étrangers. Être un étranger, c'est-à-dire que certaines... là où on est, ce n'est pas notre pays. On n'est pas habitué à la façon de vivre du pays. On ne comprend peut-être pas les attitudes des gens du pays parce qu'on n'y est pas habitué, on n'a pas grandi dans ce pays. Donc il y a des faits de la culture du pays qui nous échappent. Alors non seulement on était étrangers à la vie de Dieu, on ne pouvait pas comprendre certaines choses parce qu'on était étrangers, on ne pouvait pas comprendre sa parole, on ne pouvait pas comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelait. Mais en plus, ennemi, on peut être étranger sans être ennemi, mais là, étranger et ennemi, c'est-à-dire à cause de nos pensées, mais pas seulement à cause de nos pensées, de nos mauvaises œuvres, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais maintenant, nous avons été réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous as aimés alors que nous étions tes ennemis. Il y a des personnes qui peuvent mourir pour une cause qui leur est noble à leurs yeux. Mais comprenons bien que Jésus est mort alors que nous étions encore ses ennemis. Mourir pour ses ennemis, par amour pour chacun d'entre nous, et ce pour nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que maintenant, étant réconciliés, un jour, il nous fera paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Oui, frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, l'Église que nous sommes, elle est en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Et j'aime à rappeler que littéralement, le mot « tête » en grec, c'est quoi ? Littéralement, le mot « tête », c'est le mot « source ». Il est la source du corps de l'Église. Il est celui qui a autorité sur l'Église. L'Église de Jésus-Christ, elle est en lui. Alléluia ! C'est la source de l'Église. C'est la source de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église et l'Église existe par lui. C'est lui qui la fonctionne et elle est pour lui, pour refléter sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu tiens l'Église entre tes mains et tu as la puissance de la faire subsister jusqu'à ton grand jour. Amen.